Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'où vient donc, mes frères, cette joie si particulière que nous éprouvons en la fête de l'Assomption? Une joie qui fait tressaillir notre âme selon une tonalité toute spéciale, bien distincte des autres fêtes liturgiques. La joie d'aujourd'hui n'est pas la joie de Noël. La joie de Noël est simple, enfantine, mais elle a quelque chose d'inachevé parce qu'elle n'a pas encore été mûrie par la souffrance. Ça n'est pas non plus la joie de Pâques, cette victoire qui est encore porteuse des cicatrices toutes fraîches de la Passion. Ça n'est pas même la joie de l'ascension de notre Seigneur, parce que cette ascension reste encore d'une certaine façon ouverte à la crainte, puisque celui qui monte ainsi dans la gloire reviendra un jour comme juge, au jour terrible de la fin du monde. Mais celle qui monte aujourd'hui au ciel est notre mère. Elle n'est pas en charge de la justice, mais uniquement de la miséricorde. Et nous savons que de là-haut, elle répandra avec surabondance sa miséricorde. Comme nous, la Sainte Vierge a été sauvée, elle a été rachetée, et son entrée au ciel est déjà d'une certaine manière la nôtre. De plus, elle n'est pas au ciel avec son âme seulement, comme les autres saints, mais avec son âme et son corps. En elle, la résurrection de la chair, promise à nous tous, à tous les élus, a déjà eu lieu. Elle est vraiment, entièrement, parfaitement arrivée au but, au terme. Elle participe pleinement à la joie céleste. La grâce de Dieu a atteint sa victoire définitive. Tout est consommé. Et pour nous, qui sommes encore sur cette terre, dans cette vallée des épreuves et des larmes, cette fête du 15 août est celle qui nous fait le mieux pressentir notre propre béatitude. Ici-bas, on peut dire que c'est la plus céleste de nos fêtes de la terre. Et comment la Sainte Église nous associe-t-elle à cette joie céleste, cette joie de la Mère de Dieu, qui évidemment est en même temps celle de son Fils, et aussi celle de tous les anges, celle de tous les habitants du paradis? La réponse est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Pour nous faire participer à la joie céleste de Notre-Dame, l'Église n'a rien de mieux à nous donner que son chant, le cantique d'action de grâce de la Sainte Vierge, son hymne d'allégresse, le Magnificat. Pour profiter de la grâce propre et de la joie liée à cette fête liturgique, nous n'avons rien de mieux à faire en ce jour qu'essayer de nous accorder à ce chant. Alors, vous savez que parmi les quatre évangélistes, Saint Luc seul nous transmet ce cantique. Et visiblement, il lui a été confié par la Sainte Vierge elle-même. Les exégètes, c'est-à-dire ces savants qui étudient de très près le texte de l'Écriture sainte, ont remarqué qu'il y a au début de l'Évangile de Saint Luc un contraste très net entre l'introduction, qui est écrite en un grec très classique, et puis les cantiques, le cantique de Zacharie, le Benedictus, ou bien le cantique de la Sainte Vierge, le Magnificat, qui sont visiblement des traductions de cantiques écrits en langue hébraïque. Et on voit là, c'est inscrit dans le texte même, que Saint Luc n'a pas lui-même composé ses chants, comme le font certains historiens, qui n'hésitent pas à mettre dans la bouche des personnages dont ils racontent l'histoire le discours qui leur paraît vraisemblable, mais qu'il a reçu ses paroles comme un dépôt sacré, et qu'il s'est contenté de les traduire en grec. Et ça, c'est important pour nous, parce que si la Sainte Vierge a pu donner à Saint Luc le cantique qu'elle a ainsi chanté devant sa cousine Élisabeth, c'est que ce cantique n'a pas été seulement celui d'un jour, mais celui de toute sa vie. Elle l'a souvent répété, peut-être tous les jours, et on peut vraiment y trouver son cri du cœur, l'expression de son âme. On peut même dire, on peut penser que ce chant est antérieur au moment de la visitation. Il a dû mûrir dans le cœur de la Sainte Vierge pendant son voyage vers sa cousine Élisabeth. Sitôt l'Annonciation, elle est partie en hâte pour aider sa cousine en portant en elle le Fils de Dieu qui commençait à grandir en son sein. Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire en son cœur sinon chanter? On peut même remonter plus loin, parce que les exégètes, encore eux, en scrutant le Magnificat à la loupe, y ont trouvé de nombreuses citations de la Bible. D'autres femmes, avant la Sainte Vierge, avaient composé des cantiques, notamment Marie, la sœur de Moïse, après le passage de la Mer Rouge, ou bien Déborah, à l'époque des Juges, ou bien Judith, après avoir tué Holopherne, Judith dont nous parle l'épître d'aujourd'hui, qui est appliquée à la Sainte Vierge, ou bien Anne, la mère du prophète Samuel. Et puis il y a aussi, dans l'Ancien Testament, tout un recueil de cantiques sacrés qu'on appelle les psaumes. Or, très visiblement, la Sainte Vierge s'inspire de tous ces textes. Elle les connaît, elle les a déjà médités, elle se les est appropriées, et tout naturellement, elle en reprend des mots, des images, des expressions pour chanter sa joie. Et pourtant, son chant a une tonalité toute nouvelle. Sous la motion de l'Esprit-Saint, on peut vraiment dire qu'elle compose un cantique nouveau. Et quelles sont donc les caractéristiques de ce cantique? Eh bien, la première, c'est qu'il est vraiment et entièrement centré sur Dieu. Lorsque Moïse, ou bien sa sœur Marie, après le passage de la Mer Rouge, chantent leur action de grâce, ils s'attardent beaucoup sur les détails. Dans leur cantique, on parle des Égyptiens vaincus, des chevaux et des chars qui ont été engloutis par la mer, etc. La Sainte Vierge, elle, semble ne s'intéresser qu'à une seule chose. Elle oublie tous les détails, elle ne voit qu'une seule chose, le bon Dieu. Et la seule chose à laquelle elle s'accroche, ce sont les traits du bon Dieu qui sont révélés dans les événements. Alors, elle s'efforce avec toute son âme de magnifier le Seigneur. Magnificat, que mon âme magnifie, que mon âme exalte le Seigneur. C'est-à-dire, elle essaye de proportionner sa louange à la grandeur de Dieu, ce qui évidemment dépasse toutes les forces humaines. Et qu'est-ce qu'elle loue ainsi? Eh bien, elle loue la puissance de Dieu. À trois reprises, elle dit d'abord « potens est », il est puissant. « Fecit potentiam in brachio suo », il a manifesté la puissance de son bras. Et puis, il a déposé les puissants de la terre, « deposuit potentes ». Également, elle loue sa sainteté, il est saint. « Sanctum nomen eius », son nom est saint. Mais ce n'est pas l'essentiel pour elle. On voit que ce qui fait ses délices, ce sur quoi elle s'attarde, c'est la miséricorde du bon Dieu, la façon dont sa bonté se penche sur les faibles, sur les humbles, sur ceux qui ont faim. Et vraiment, c'est ce qu'elle aperçoit le plus nettement en Dieu, parce que c'est ce qu'elle vient d'éprouver en elle-même, dans sa chair, c'est ça. Il s'est penché vers sa bassesse, vers la bassesse de sa servante. Et elle ne peut pas se lasser de regarder, de contempler, d'admirer, de chanter cette douce et tendre miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu qui se tourne vers la misère. D'une certaine façon, on peut dire qu'on trouve tout l'Évangile dans le Magnificat, ou plutôt on en trouve le cœur. Quand on demande qu'est-ce qui peut résumer l'enseignement de notre Seigneur, souvent on parle du discours sur la montagne et du cœur de ce discours que sont les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, etc. Eh bien, plus ou moins, on retrouve ces béatitudes dans le Magnificat. Bienheureux ceux qui craignent Dieu, timentibus eum. Bienheureux les humbles, humiles. Bienheureux ceux qui ont faim, esurientes. Et en revanche, malheur aux superbes, Malheur aux puissants, potentes, malheur aux riches, divites. La Sainte Vierge le dit et elle le répète avec une admiration inlassable. Il est comme ça, notre Dieu. Il est miséricordieux. Et d'une certaine façon, on peut entendre à l'avance le cri d'admiration qui sera le cri de notre Seigneur lui-même lorsque notre Seigneur se tourne vers son Père et lui dit « Je vous bénis, ô Père, de ce que vous avez caché cela aux sages et aux savants et que vous l'avez révélé aux humbles. » La même admiration se trouve dans le cœur de notre Seigneur et dans celui de la Sainte Vierge. Et vraiment, l'essentiel du Magnificat est là. C'est l'humilité qui est consciente de son néant et qui est éblouie par la bonté, la générosité, la miséricorde de Dieu. Je ne suis rien, je n'ai droit à rien, je ne mérite rien, et il m'a tout donné. Voilà, c'est l'essentiel du message, et c'est certainement encore le cantique de la Sainte Vierge au ciel, nécessairement. C'est ça qui fera notre joie exultante. On aura aboli tout orgueil, et on se rendra compte, si je suis là, c'est vraiment le bon Dieu qui m'a tout donné. C'est par moi-même, je ne méritais rien, et il a vraiment été plus que bon à mon égard. Il y a encore une autre vérité sur Dieu, une autre qualité divine, dont parle la Sainte Vierge à la fin de son Magnificat, c'est la fidélité de Dieu. Après s'être émerveillée de ce qu'il avait fait en elle, elle se dit « Oui, mais il l'avait promis, il tient ses promesses. Il l'avait promis à nos pères, les patriarches, il l'avait promis à Abraham et à sa descendance. » Et là, on a un petit encouragement à la confiance en Dieu. Souvent, nous passons par des épreuves, des difficultés. Nous savons par la foi que le plan du bon Dieu sur nous est très beau, mais dans la pratique, nous avons du mal à nous en souvenir dès qu'arrive une difficulté, un imprévu, et nous rappeler que, oui, tout ce qui arrive, tout ce que le bon Dieu nous permet qu'il nous arrive et pour notre bien, est difficile à concrétiser quand on est dans l'épreuve. Et la Sainte Vierge, elle aussi, est passée par des épreuves, et certainement, elle, dans son chant du Magnificat, elle a cette joie de voir, elle a toujours eu confiance en Dieu et de pouvoir dire « Ma confiance n'a pas été trompée ». Et ça aussi, ça sera notre joie au ciel. Alors, mes frères, nous pouvons aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, d'ici le 22 août, nous sommes en préparation à la fête du Cœur Immaculé de Marie, nous pouvons essayer peut-être de réciter plus souvent, de méditer un petit peu ce cantique de la Sainte Vierge, ce Magnificat. On peut dire que c'est le testament qu'elle nous a laissé. On a d'un côté le testament du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le Jeudi Saint. Jésus-Christ a voulu nous laisser d'une certaine façon son cœur dans la Sainte Eucharistie. Et puis qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Il y avait ce sacrifice qu'il voulait offrir au nom de tous les hommes, à Dieu. Sacrifice de louange, sacrifice de propitiation, sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'intercession. Et il y a donc ce sacrifice. Et notre Seigneur nous a légué ce sacrifice. Et dans le cœur de la Sainte Vierge, il y avait le Magnificat, ce cantique, qui est encore certainement son cantique au ciel. Et elle a voulu également nous le léguer. Donc, profitons de ce mois d'août, le mois du cœur immaculé de Marie, pour essayer de le chanter, nous aussi, dans notre cœur, avec l'aide de la Sainte Vierge, en étant conscient qu'un jour, si nous sommes fidèles à la grâce, un jour nous aussi, nous chanterons au ciel, nous aurons notre propre cantique, puisque chaque âme chantera son cantique, mais qui sera nécessairement accordé au Magnificat de la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.